Rogers à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
13h18, si vous venez de vous joindre à nous à l'émission On en jase, la grosse nouvelle, c'est cette fusillade présentement dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Ce qui est assuré, il y a un policier du SPVM, malheureusement, qui a perdu la vie, il a été tué par balle. Un suspect qui a été abattu. On suit ça en direct pour vous. Et là, Mathias, on parle de peut-être un deuxième suspect qui aurait été abattu. Donc, il y aurait eu plus d'un tireur.
Oui, il y aurait eu deux tireurs, selon certaines rumeurs, et le deuxième tireur qui aurait été abattu aussi. Des policiers qui sont très actifs autour des différents immeubles dans le secteur, justement, dans le secteur à la hauteur de l'avenue de Coutray, sur l'autoroute Descaries. On se promène entre les différents immeubles.
Le groupe tactique vient d'arriver.
Le groupe tactique d'intervention, le GTI, vient tout juste d'arriver sur place. Donc, un deuxième suspect qui aurait été abattu, on n'a pas encore la confirmation. On chercherait présentement à savoir s'il y avait un troisième suspect qui serait sur place. Sûreté du Québec qui est sur place également. L'autoroute Descaries qui est fermée présentement, les deux directions entre les échangeurs Turcot et Descaries. Et tous les habitants du secteur ont été invités à rester confinés chez eux, à ne pas sortir dans le secteur, étant donné la situation qui a dégénéré au cours des dernières minutes.
Merci beaucoup, Mathias. Et tu vas continuer d'être sur le beat pour nous, pour qu'on regarde le tout. Puis s'il le faut, d'ici la fin de l'émission, on retourne revoir le Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. On va de ce pas rejoindre Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux. Luc, comment vas-tu?
Ça va particulièrement bien égoïstement, mais ouais. Je pense comme tout le monde parce qu'il se passe dans Côte-des-Neiges et encore une fois, c'est pas toujours facile le travail de policiers, ils sont ouverts à la critique, mais qu'est-ce que leur travail est important très dangereux, puis on le constate aujourd'hui.
Non, vraiment, puis honnêtement, tu étais chroniqueur en politique américaine, on a toujours l'impression quand il y a ce type de fusillade-là aux États-Unis que c'est loin de chez nous, puis que ça peut pas nous arriver, mais la violence, ça s'arrête pas aux frontières, malheureusement, puis c'est ce qu'on voit. Moi, pour de vrai, ça m'ébranle énormément, tu sais, de savoir qu'un policier est tué, qu'il y aurait possiblement deux suspects armés qui ont ouvert le feu, ça amène tellement de questionnements.
On est moins familier hein, avec cette problématique-là. Je pense que la violence en général, le crime, le recours aux armes à feu, c'est une thématique donc souvent près de nous avec laquelle on est moins familier. On est plus habitué de commenter ça à l'extérieur. Mais comme n'importe quel thème, quand ça frappe aussi près de nous, quand ça frappe au sein des communautés, on constate à quel point c'est brutal. Puis essayons d'imaginer les gens qui ont reçu cette alerte. Je pense que c'est une alerte ouverte, mais disant... Vous bougez pas, parce que là, on le mentionnait tout à l'heure, hein, c'est vous devenez une cible dès que vous bougez. Ces gens-là frappent ce qui bouge ou tirent sur ce qui bouge. Donc non, c'est le genre de situation, je n'aime pas commenter ça aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus confortable à commenter, si on peut s'exprimer comme ça, que quand ça survient chez nous.
Ah, vraiment? Puis là, les gens qui étaient dans les immeubles d'appartements là, qui étaient justement sur les lieux, qui fait en sorte là, que ça devient tellement terrorisant pour eux. Nouvelle de dernière minute, justement, développement?
La rumeur qui courrait présentement, c'est que ça aurait été une stratégie de guet-apens pour amener des policiers sur les lieux pour pouvoir leur tirer dessus. C'est ce qui court présentement.
Aïe, aïe.
On n'a pas la confirmation, on n'a pas plus d'informations, mais la théorie principale qui court chez des policiers, ça aurait été que c'est un guet-apens volontiers pour faire déplacer des policiers sur les lieux pour par la suite ouvrir le feu.
Hey, violence directement envers les forces de l'ordre. On parle énormément, justement, dans les médias, Luc, de ces policiers au niveau de Montréal-Nord, les accusations de racisme. Donc, on va suivre les développements attentivement parce que, veut pas, ça va peut-être être une continuité de cette histoire-là.
Et peut-être, mais c'est bien personnel, ça ne vous oblige en rien, mais un appel au calme pour tout le monde. Quand j'ai vu ce qui se passait à Montréal-Nord, mon premier réflexe a été, quelle progression au sein des forces de police, parce que ce sont des policiers qui en ont dénoncé d'autres. Sinon, hélas, ça s'est enflammé très vite et on est allé bien au-delà de ça pour lancer des accusations, porter des jugements. Il y a une enquête en cours, puis vous le voyez aussi aujourd'hui. C'est un travail où on met notre vie en jeu et malheureusement, il y a au moins un officier qui est décédé dans le cadre de son travail, qui est justement de nous protéger. Donc, Petit appel au calme, puis attendons le développement, attendons les faits avant d'émettre souvent des opinions gratuites sur les réseaux sociaux.
Ah, vraiment? Donc, l'enquête va poursuivre son cours. On le rappelle, c'est le Bureau des enquêtes indépendants qui va être en charge. Il va falloir rassurer la population rapidement. Donc, sur les ondes de Boulevard 102, on va continuer de vous informer. Puis Mathias, de toute façon, est sur le beat s'il y a des développements. Luc, États-Unis, Iran, J.D. Vance... a dit ce matin qu'on était solide dans une entente. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux selon toi?
C'est intéressant, tiens, juste pour être
certain.
Ah,
c'est bon ça!
Non, je pense qu'il y a de réel pour parler, mais les écueils demeurent. Donc, il y a bien sûr la situation aux États-Unis quand on observe ce que fait J.D. Vance. Et en passant, J.D. Vance, il joue gros. Là, il est envoyé, lui, comme responsable de ces négociations. N'oubliez pas que J.D. Vance, ce n'est pas juste le vice-président. C'est un des deux dauphins présumés de Donald Trump pour la prochaine présidentielle. Donc, lui joue gros, puis bien entendu, son pays, la région, puis même nous, finalement, on joue gros. Il faut garder à l'œil qu'il y a des critiques aussi aux États-Unis. Il y a actuellement une espèce de fronde républicaine au Sénat pour dire... Cette entente-là, nous, on pense que ça ne tiendra pas, que ce n'est pas solide et nous n'en voulons pas. Et on est très inquiet des avoirs ou des milliards qui ont été débloqués, dégelés, sans qu'il y ait eu d'engagement sur la gestion du nucléaire. Parce qu'on parle souvent, avec raison, du détroit qui est bloqué, mais le nucléaire est le risque le plus important pour lequel les Américains sont intervenus en Iran. Donc, il y a un signe de bonne foi, en tout cas, du côté de J.D. Vance. Il dit les bonnes choses, les bons mots, appuie les bonnes décisions. Retenez que ça demeure particulièrement périlleux et qu'encore une fois, il y a deux joueurs qui, eux, ne semblent pas collaborer à ce que l'Iran souhaite ou à ce que les États-Unis souhaitent. Le Hezbollah par l'intermédiaire du Liban, bien sûr Israël de l'autre.
Oui, exactement. Est-ce que ça va être possible de contenir Benjamin Netanyahou? Parce que je regardais en fin de semaine, sondage en Israël, les gens disent l'Iran gagne la guerre, il faut continuer à anéantir le Hezbollah au Liban, puis Netanyahou est en campagne électorale. Fait que...
Trump et Netanyahou, quand ils se parlent, les deux ont un contexte en politique intérieure qui est diamétralement opposé. C'est-à-dire que Donald Trump, lui, souhaite mettre fin à la guerre. Il y avait un sondage ce matin qui disait 78 % des Américains veulent qu'on mette fin au conflit là. Quand on regarde la cote de popularité du président, elle est au plus bas, donc ça ne va pas bien. Quand on regarde les prévisions pour la Chambre des représentants et même pour le Sénat, ça ne va pas bien dans les sondages. Les Républicains devraient garder le Sénat, mais on ne devrait même pas en parler du Sénat tellement normalement, ça devrait être acquis aux Républicains. Donc, il y a une pression pour mettre fin à ce conflit, même s'ils sont au moins 40 % des Américains à dire « on perd là-dedans ». L'administration Trump n'a pas obtenu assez. Donc, c'est quand même énorme. Il n'y en a qu'une vingtaine de % qui disent « on a gagné contre l'Iran ». Sinon, de l'autre côté, tu l'as bien souligné, c'est une réalité, mais qui est en sens inverse pour Netanyahou, c'est on se fait avoir. On a frappé avec les Américains, on a convaincu les Américains de frapper avec nous. C'est une version, en tout cas, ou un narratif qui circule beaucoup. Mais en même temps, surtout si on est en Israël, ben là, on est près de la frontière avec le Liban. Là, nous, on en discute à Québec, mais eux sont prêts. Ils voient le Hezbollah régulièrement. On trouve que le Liban n'en fait pas assez, qu'il pourrait en faire plus. Et le Hezbollah se plaît, même quand on l'a frappé, à se relever et à défier. Donc, en politique intérieure, dans un cycle électoral, Netanyahou, qui a survécu à je ne sais plus combien de crises, peut-il survivre à « j'appuie les Américains et je respecte ce cessez-le-feu du début à la fin » C'est le motif pour lequel je disais « il y a ce que J.D. Vance nous dit, ce que disent les négociateurs ». Et bien entendu, la réalité sur le terrain ailleurs, dont la réalité en Israël.
Non, en effet. Puis, quand on regarde ça également froidement, là, les Américains ont dit on débloque justement des sanctions sur le pétrole iranien. Donc, l'Iran va pouvoir continuer à s'enrichir de nouveau, va pouvoir se remettre à s'enrichir. On veut débloquer aussi des avoirs iraniens qu'on avait conservés de 300 milliards pour aider à reconstruire le pays. Mais reconstruire le pays en Iran, c'est aussi reconstruire sa force de frappe. Donc, le Hezbollah va continuer à être financé et encore davantage par l'Iran. Alors, les Israéliens gagnent rien.
Et dans le diable est souvent dans les détails, hein? Quand on réfère au fameux rapport là, ou à la fameuse idée que le 300 milliards, s'il est bel et bien débloqué, va servir à la reconstruction de l'Iran. Nous, on pense reconstruction, on pense à la population. Pendant ce temps-là, le régime n'est pas plus sympathique, le régime n'est pas plus brutal. Il y a des gens qui sont morts et d'autres qui sont dans des situations qui équivalent à une crise humanitaire. Nous, on pense à eux pour les 300 milliards.
Ben oui.
C'est pas forcément, tu l'as bien souligné, ce que le régime va faire. Donc, non, encore énormément d'écueils, c'est particulièrement volatile. On est content si ça progresse. Attendons un peu.
Exactement. Crise au niveau de l'Angleterre. Le premier ministre britannique Keir Starmer qui tire sa révérence est arrivé tôt ce matin. Peux-tu nous résumer pourquoi il y avait autant de pression sur le premier ministre depuis plusieurs mois?
Écoute, Keir Starmer, quand il est... Et en passant, pour ceux qui connaissent moins Starmer ou sont moins au courant de la chose internationale, Starmer n'est là que depuis 2024. Et quand il arrive, ce qu'on lui demande, c'est d'effectuer un virage, donc au sein du Labour, un virage plus vers le centre, même vers la droite. Et il va jouer des thèmes qui avaient plu à l'époque, parce qu'il y a un lien avec Donald Trump, qui avait plu au président américain. Il va jouer la question du patriotisme, il va jouer la question de « nous sommes le parti de la loi et l'ordre », et il va jouer beaucoup la carte du contrôle de l'immigration et de mesures plus coercitives, plus incisives pour contrôler l'immigration. Et depuis 2024, sa cote ne cessait de diminuer. On a parlé d'émeutes anti-immigrants dès l'été 2024. Il y en a eu en 2025. Il a eu beau resserrer les contrôles, ce n'était ni au goût de la droite et de la gauche, donc pris entre deux feux, incapable de satisfaire personne. La crise de l'immigration, donc, et certains événements ou des incidents graves liés à des immigrants, donc, va l'handicaper sévèrement. Et au plan politique, ben, il va de défaite en défaite. Les représentants de son parti sont défaits. Et on attendait un petit peu